Hello and good evening. Welcome to our space today. It's Wednesday, so it's her reason for being day. And today we are having a special.
Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans notre espace aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Cela signifie que c'est le jour de Horizon for Being. Et aujourd'hui, nous avons une discussion spéciale sur la stigmatisation associée au cancer du col de l'utérus. Pour commencer, je m'appelle Achien Otieno de Being Africa. Being Africa est une plateforme visant à informer, inspirer et impliquer tout le monde dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Chaque mercredi, nous organisons la journée Horizon for Being, au cours de laquelle nous discutons de diverses questions relatives à la santé des femmes, et plus particulièrement du cancer du col de l'utérus. Le sujet d'aujourd'hui est intéressant, car ce que nous avons appris au cours des années, c'est que lorsqu'une femme est diagnostiquée avec un cancer du col de l'utérus, elle est fortement stigmatisée, rejetée et confrontée à de nombreux défis qui finissent par affecter sa santé psychologique. Et certaines finissent par mettre fin à leur vie de manière prématurée. Il s'agit d'un sujet très sensible qui nécessite beaucoup d'attention. La discussion d'aujourd'hui nous permettra de mieux comprendre ce qu'est la stigmatisation et ce que nous pouvons faire pour y remédier. Permettez-moi d'inviter Valérie à introduire la discussion d'aujourd'hui. En fait, je me réjouis de cette discussion. C'est un sujet qui a été demandé et qui revient chaque fois que nous discutons du cancer du col de l'utérus ou de tout autre type de maladie chronique. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège d'avoir cette discussion. Valérie, permettez-moi de vous inviter à introduire cette discussion.
Thank you very much, Achien, for that wonderful introduction.
Merci beaucoup à Chien pour cette magnifique introduction et bonsoir à tous. Bienvenue à Her Reason for Being. À Chien a déjà fait une grande partie de l'introduction et le sujet d'aujourd'hui sera très impliquant. Nous encourageons tout le monde à donner son avis. Nous allons nous concentrer sur la manière dont nous pouvons changer les perceptions et les perspectives concernant le cancer du col de l'utérus afin de lutter contre la stigmatisation qui y est associée. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Aujourd'hui, tout le monde est invité, tout le monde est panéliste et tout le monde est orateur, mais Caleb va me tenir compagnie. Bienvenue, Caleb, et veuillez vous présenter.
Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Achien. Merci à tous d'être parmi nous ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, selon l'endroit où vous vous trouvez et l'heure à laquelle vous écouterez l'espace par la suite. Je m'appelle Caleb et je dirige l'équipe de Vital Voices for Africa, VVA. Vital Voices for Africa est basé au Togo, mais a une vocation continentale. Et notre mission est d'amplifier les voix des communautés et de sensibiliser au développement durable sur le continent. Renforcer la résilience pour le développement durable en Afrique. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et de partager des idées et des perspectives sur la façon dont nous pouvons changer les mentalités en ce qui concerne la stigmatisation, en particulier la stigmatisation des patientes atteintes du cancer du col de l'utérus.
Merci à Caleb. Caleb est un ami de cet espace depuis très longtemps et aujourd'hui, il est ici en tant qu'orateur. Bienvenue à Caleb et bienvenue à tous. Pour commencer, j'aimerais que Caleb nous donne un aperçu de son pays, le Togo. Quelle est la situation en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus? Quelle est la prévalence et quelle est la situation?
All right. Thank you very much, Valérie. I would very much like to generalize my intervention today because yes, I am in Togo.
Merci beaucoup, Valérie. J'aimerais généraliser mon intervention aujourd'hui parce que oui, je suis au Togo, mais ce qui se passe au Togo est à peu près la même chose que ce qui se passe au Ghana qui est tout près et au Bénin qui est aussi tout près et dans toute l'Afrique de l'Ouest et je devrais dire dans la plus grande partie de l'Afrique et surtout étant donné que nous parlons de stigmatisation aujourd'hui, c'est un problème général. La stigmatisation des patientes atteintes du cancer du col de l'utérus n'est pas limitée au Togo ou à un pays en particulier. C'est un problème général. Vous avez demandé le taux de prévalence du cancer du col de l'utérus au Togo. Je ne pense pas avoir de détails spécifiques à ce sujet, mais ce que je sais, c'est que la stigmatisation existe. Je sais aussi que les problèmes communs auxquels les gens sont confrontés en matière de contrôle, de soins et de prévention du cancer du col de l'utérus, tous les problèmes qui y sont associés dans le monde et sur le continent, existent aussi ici. Ils sont très importants ici au Togo. Alors, au lieu de parler de la prévalence, quelque chose que je ne pense pas être qualifié pour examiner, je voulais plutôt partager mon point de vue, si vous le voulez bien, Valérie, sur ce que je pense de la situation du cancer du col de l'utérus, en particulier en termes de stigmatisation, et j'aimerais faire ce que j'appelle de l'africanisation. J'aimerais africaniser mon intervention d'aujourd'hui. Cela vous convient, Valérie?
Oui, allez-y.
Ok, merci. Thank you very much. So today we're talking about cervical cancer, and we are focusing our attention particularly.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons donc du cancer du col de l'utérus et nous concentrons notre attention sur le changement des perceptions et des perspectives pour vaincre la stigmatisation.
If you talk about stigma, we would be referring to
tout d'abord, qu'est-ce que la stigmatisation? La stigmatisation, c'est le fait que les gens vous voient d'un mauvais œil à cause de quelque chose que vous subissez ou d'une maladie qui vous touche. La stigmatisation est étroitement liée à la discrimination, ou y conduit très facilement, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vous traite de manière négative en raison de ce que vous subissez ou d'une situation qui vous affecte. Si nous faisons le lien avec notre thème d'aujourd'hui, à savoir changer les perceptions et les perspectives pour vaincre la stigmatisation liée au cancer du col de l'utérus, nous verrons que nous parlons de la stigmatisation des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. Nous savons tous que le cancer du col de l'utérus pose un problème de santé important, non seulement en Afrique, mais aussi dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les perceptions et les perspectives pour vaincre la stigmatisation liée au cancer du col de l'utérus. Avant d'aborder ce sujet, il est important de mettre en perspective un défi majeur qui se présente naturellement lorsque l'on traite du cancer du col de l'utérus, et vers la fin, nous reviendrons sur ce défi particulier et sur la raison pour laquelle il est important.
Valérie, every day, every Wednesday, we get to this platform and we talk about cancer.
Valérie, tous les jours, tous les mercredis, nous montons sur cette tribune et nous parlons du cancer. Nous parlons de l'importance du dépistage du cancer. Chaque fois qu'il est question du cancer du col de l'utérus, les experts disent toujours que la meilleure façon de le prévenir est de se soumettre à un dépistage régulier, parce qu'un diagnostic à temps peut conduire à un traitement et que vous serez alors sauvé du problème. Mais je voudrais nous poser une question aujourd'hui. Que se passe-t-il pendant le dépistage du cancer du col de l'utérus? La femme s'allonge sur le dos, plie les genoux, place ses pieds dans des supports, deux supports placés à chaque extrémité de la table où elle va être examinée.
I'm just trying to use a non-graphical approach to basically explain that during a cervical cancer screening.
En bref, j'essaie d'utiliser une approche non graphique pour expliquer que lors d'un dépistage du cancer du col de l'utérus, une femme ouvre son vagin à un professionnel de la santé. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête de cette femme lorsqu'elle doit s'ouvrir ainsi au cours d'un processus de dépistage. Et pouvez-vous imaginer si ce professionnel de la santé est un homme? Si je soulève cette question, c'est pour que nous reconnaissions le fait que le cancer du col de l'utérus en lui-même, qu'il s'agisse de dépistage, de contrôle, de soins ou de toute autre chose, n'est pas par défaut une chose facile à vivre pour une femme. Le dépistage du cancer du col de l'utérus n'est pas une chose facile pour une femme. Et je pense qu'une chose très importante que nous devons réaliser dans ce monde est de normaliser le dépistage du cancer du col de l'utérus à travers le continent. Je devrais même dire à travers le monde. Lorsque nous aurons réussi à mettre les femmes à l'aise avec le processus de dépistage du cancer du col de l'utérus, nous aurons franchi une étape importante. Nous pouvons mettre tous les services et équipements de dépistage du cancer du col de l'utérus à la disposition de chaque femme en Afrique. Nous pouvons les rendre aussi abordables que possible. Nous pouvons créer une Afrique idéale pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Mais si les femmes elles-mêmes ne se sentent pas à l'aise dans ce processus en raison de ce qu'il implique, s'exposer aux professionnels de la santé et le processus de dépistage avec tous les ustensiles, matériel que cela implique, nous aurons encore beaucoup de femmes qui ne se feront pas dépister et le cancer du col de l'utérus sera toujours aussi répandu. Et bien sûr, la stigmatisation restera présente et sera encore plus importante. Ce que je viens de dire a beaucoup de sens si nous sommes dans un continent idéal. Et qu'est-ce que j'entends par continent idéal ? Un continent où nous sommes en mesure de faire en sorte que chaque femme se sente à l'aise pour subir un dépistage du cancer du col de l'utérus. Bien entendu, un continent idéal signifie également que nous apportons les services de dépistage à toutes les femmes d'Afrique. Nous les rapprocherons d'elles et les rendrons abordables. Ce serait un continent idéal. Malheureusement, nous ne nous trouvons pas sur ce continent idéal. Il ne serait pas facile d'y parvenir. Vous souvenez-vous du premier défi que j'ai mentionné, à savoir qu'une femme doit s'exposer lors du dépistage du cancer du col de l'utérus? Ce défi sera toujours présent. Il est également peu probable que nous soyons en mesure d'offrir des services de dépistage à toutes les femmes et de les rendre abordables pour toutes les femmes dans un avenir proche. Nous n'aurons donc malheureusement pas de sitôt un continent idéal et la stigmatisation des patientes atteintes du cancer du col de l'utérus continuera malheureusement à persister dans de nombreuses sociétés africaines. Il s'agit d'une question complexe et nous ne pouvons pas parler de changement de perception sans identifier les raisons sous-jacentes de la stigmatisation. Valérie, nous avons dit qu'il s'agirait d'une session interactive et que les gens interviendraient. Je ne sais donc pas si je dois continuer et si nous pourrons apporter nos commentaires au fur et à mesure.
Vous pouvez continuer.
D'accord. Je voulais juste m'assurer que je n'allais pas trop vite, que nous suivions le même rythme et que les autres avaient la possibilité d'intervenir s'ils avaient des commentaires à faire. Je vais donc continuer. Je disais que la stigmatisation est une question complexe et que nous ne pouvons pas parler de changement de perception sans identifier les raisons sous-jacentes de la stigmatisation. Une fois que nous les aurons identifiées, nous pourrons nous attaquer efficacement à ces idées fausses et, nous l'espérons, progresser, faire de réels efforts pour faire reculer la stigmatisation. La première de ces raisons sous-jacentes à la stigmatisation est l'idée fausse et le manque de connaissances que les gens ont du cancer du col de l'utérus. Je ne connais pas les experts que nous avons ici, mais je suis sûr que la plupart d'entre nous, ou vous tous, seraient d'accord avec moi pour dire que le HPV, le virus du papillome humain, qui cause le cancer du col de l'utérus, est assez souvent confondu avec le cancer du col de l'utérus lui-même. Et à cause de cela, les gens ont tendance à associer le HPV à la promiscuité sexuelle, à l'infidélité, à la prostitution, à un comportement sexuel à risque, tout cela. Et on ne veut pas être associé, les femmes ne veulent naturellement pas être associées à tout cela. Il y a donc une tendance naturelle à stigmatiser les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus à cause de ces idées fausses. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit, lorsque les gens ne comprennent pas bien la maladie, ils commencent à porter des jugements. Non seulement ils ont tendance à associer le cancer du col de l'utérus à la promiscuité et au comportement sexuel à risque, mais ils ont aussi tendance à porter des jugements. Ils veulent maintenant vous juger pour la conception qu'ils ont de vous, la fausse conception qu'ils ont de vous, et cela les amène à vous juger, à avoir des idées fausses sur des choses que vous n'êtes pas nécessairement, ou sur des choses qui ne sont pas nécessairement vraies à votre sujet. Il y a aussi les normes culturelles et de genre. Nous savons que les femmes en Afrique, et ce n'est peut-être pas la même chose dans le monde occidental, mais en Afrique, l'accouchement est très important. Et comme le cancer du col de l'utérus affecte le système reproductif, cela peut amplifier la stigmatisation, parce que les rôles traditionnels des hommes et des femmes, et les attentes de la société, exige qu'une femme porte des enfants, mais elle ne porte pas des enfants n'importe comment, elle porte des enfants pour son mari. Ce sont là nos valeurs africaines. Et si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas procréer à cause d'un cancer du col de l'utérus, vous pouvez imaginer la stigmatisation qui peut en résulter. Le monde entier veut que vous donniez naissance à un bébé. Vous ne pouvez pas donner naissance à un bébé. Vous êtes soumise à une forte pression qui s'accompagne d'une stigmatisation. Cette pression s'accompagne également de reproches et de honte, car les gens croient à tort que votre cancer du col de l'utérus, ou toute autre raison pour laquelle vous ne pouvez pas donner naissance à un enfant, est purement dû à un comportement sexuel. Vous pouvez imaginer le traumatisme que cela peut causer aux femmes.
Sometimes people also stigmatize against cervical cancer patients because they do not understand how cervical.
Parfois, les gens stigmatisent également les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus parce qu'ils ne comprennent pas comment le cancer du col de l'utérus se transmet. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils vous voient d'un mauvais œil. Ce n'est même pas parce qu'ils vous considèrent comme une personne avec un comportement à risque que vous vous prostituez ou que vous faites des choses de ce genre. Parfois, les gens craignent simplement qu'en se rapprochant de vous, ils vont contracter eux aussi un cancer du col de l'utérus. Il existe donc une idée fausse, selon laquelle le fait de s'approcher d'une patiente atteinte d'un cancer du col de l'utérus peut vous exposer au risque de contracter ce cancer, alors que ce n'est pas ainsi que la maladie se propage. C'est une autre raison pour laquelle les gens stigmatisent les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus.
Women with cervical cancer, sometimes people assume
Et puis, bien sûr, j'ai parlé, il y a un moment, de la promiscuité. Les femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus sont parfois considérées comme des prostituées, et les femmes elles-mêmes peuvent se sentir coupables. Vous savez, parfois, même la société peut les pousser à se sentir coupables. Lorsque la société commence à parler beaucoup et à dire toutes sortes de choses négatives sur vous, vous pouvez parfois avoir tendance à vous sentir coupable et à vous reprocher ce qui se passe. C'est également très dangereux. C'est un autre type de stigmatisation qui peut être très, très désastreux, le jugement de la société et tout cela. Un autre type de discrimination dont je parlerai ici est la discrimination de la part des personnes qui sont censées vous donner les meilleurs soins, le meilleur soutien possible, les professionnels de la santé. Malheureusement, certains d'entre eux n'arrangent pas les choses lorsqu'il s'agit de traiter les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. Certains d'entre eux parlent mal à ces patientes. Certains abordent les patientes d'une manière qui les fait se sentir haïs ou traumatisés. Vous savez, c'est quelque chose de très inquiétant. En tant que professionnels de la santé, ils sont censés apporter les meilleurs soins et le meilleur soutien aux patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. Malheureusement, certains d'entre eux font encore pire et créent beaucoup plus de dégâts en raison de leur comportement non professionnel à l'égard des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. Et puis, bien sûr, il y a les liens sociaux. Parfois, la stigmatisation vient simplement du fait d'imaginer comment les amis, les membres de la famille et les collègues vont percevoir un diagnostic de cancer du col de l'utérus. C'est ce que j'appelle l'autostigmatisation. La femme s'inquiète de ce que la communauté va penser d'elle et cela devient un énorme problème. J'ai commencé par évoquer un problème universel, la nature invasive du dépistage et du contrôle du cancer du col de l'utérus. Lorsqu'une femme doit se soumettre au dépistage, au traitement et au contrôle du cancer du col de l'utérus, le fait qu'elles doivent s'exposer et tout cela, c'est une préoccupation générale. J'ai également parlé de plusieurs éléments déclencheurs de la stigmatisation. Mais à ces défis s'ajoutent certains obstacles. N'oublions pas que le dépistage du cancer du col de l'utérus n'est pas très répandu. Vous pouvez donc imaginer qu'il y a d'abord ce défi physique d'aller s'ouvrir à quelqu'un pour un dépistage. Ensuite, il y a tous les autres aspects que je viens d'énumérer ici qui, vous le savez, peuvent vraiment amener les femmes à hésiter à se faire dépister. À tout cela s'ajoutent les obstacles aux services de dépistage eux-mêmes. On sait qu'en Afrique, l'accès aux services de dépistage est limité. C'est un fait. Nous faisons beaucoup pour tenter d'améliorer la situation, mais il reste encore beaucoup à faire. En Afrique, les infrastructures ne sont pas adéquates, les établissements de soins sont limités, et les distances géographiques empêchent les femmes de se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Ce sont des aspects qui compliquent encore le dépistage. Et bien sûr, lorsque je parle de dépistage, il ne s'agit pas seulement de dépistage, mais aussi de soins, de contrôle, et même de traitement du cancer du col de l'utérus. Ces obstacles sont les mêmes, qu'il s'agisse du dépistage, du traitement, des soins et du contrôle. Nous avons déjà parlé des connaissances sur le cancer du col de l'utérus. Les gens ont beaucoup d'idées fausses sur le cancer du col de l'utérus. Cela joue un rôle crucial. Et certaines femmes elles-mêmes en savent très peu sur le cancer du col de l'utérus. Vous savez, il s'agit là d'un autre obstacle important que nous devons prendre en considération. Lorsque les femmes ne savent pas grand-chose sur le cancer du col de l'utérus et sur les dommages qu'il peut causer, et qu'elles doivent en plus faire face à tous les autres problèmes que j'ai soulignés plus haut, cela devient un véritable problème. Et vous pouvez voir qu'une fois que la stigmatisation intervient, cela devient encore plus fatal. J'ai également parlé des croyances culturelles, des idées fausses associées au cancer qui peuvent empêcher les femmes de participer au programme de dépistage. Je veux que vous voyez le schéma que je suis en train de suivre, les difficultés que rencontrent les femmes, puis les défis qui s'ajoutent à ces difficultés naturelles. J'ai parlé tout à l'heure des prestataires de soins de santé qui sont confrontés à des défis. Vous savez, ils sont confrontés à des défis liés aux compétences, à l'équipement et aux approvisionnements. Certains d'entre eux ne disposent même pas de la formation la plus actualisée, je ne dirais pas la plus appropriée, mais plutôt la plus actualisée, pour effectuer un dépistage efficace. Et parfois, la pénurie d'outils de dépistage peut encore aggraver la situation. Parfois, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour effectuer ces dépistages. Vous voyez donc que le cancer du col de l'utérus est un problème complexe.
And then you can imagine that in all of this, when all of this happens and prevents a woman from having early diagnosis, the cancer evolves.
Et vous pouvez imaginer que dans tous ces cas qui empêchent une femme de bénéficier d'un diagnostic précoce, le cancer évolue, devient grave, et toute la stigmatisation revient. J'ai donc essayé d'exposer certains des problèmes. J'ai commencé par le problème naturel, puis j'ai poursuivi en expliquant comment certaines conditions conduisent les femmes à s'épuiser dans le problème du cancer du col de l'utérus et à se retrouver dans une situation très délicate où elles n'arrivent pas à prendre soin d'eux-mêmes. Et le pire, c'est qu'elles n'obtiennent pratiquement aucun soutien de la part de la communauté.
Caleb, before maybe you proceed, I can see Dr. Riri is here, and I'm sure he'd like to comment about the first part of your.
Caleb, avant que vous ne poursuiviez, je vois le Dr. David Riri ici, et je suis sûr qu'il aimerait commenter la première partie des défis que vous avez mentionnés. Et peut-être que quelqu'un d'autre aimerait faire un commentaire avant que vous ne passiez à la recherche de solutions.
If I may also add, before Dr. comes in, there's also.
Et si je peux ajouter, avant que le docteur David n'entre en scène, il y a aussi l'aspect de la façon dont les symptômes se présentent, surtout s'il s'agit d'un stade avancé. Il peut y avoir des odeurs indésirables, des saignements anormaux. Ces éléments peuvent donc conduire à la stigmatisation et plus particulièrement à l'autostigmatisation. Je souhaite donc la bienvenue au docteur Ruiri.
Good evening,
bonsoir
everyone.
À tous.
You can hear me?
Vous m'entendez?
Yes, yes.
Oui, nous vous entendons.
I would like to concur with Caleb.
Je suis d'accord avec Caleb sur le fait que le cancer du col de l'utérus est très stigmatisé lorsqu'il s'agit de dépistage. Et dans les podcasts précédents que nous avons eus avec de nombreuses personnes, la pire chose à propos du cancer du col de l'utérus et qu'il ne présente pas de symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque les femmes présentent des symptômes, il est un peu trop tard. Ce sont les stades avancés. Mais les plus grands préjugés concernant le dépistage sont d'abord la disponibilité. Il est un peu cher, car tout le monde ne peut pas se permettre de payer 2000 pour un frottis. Il est recommandé d'effectuer un dépistage tous les 2 ans, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le cancer du col de l'utérus est la première cause de mortalité féminine dans les maladies non infectieuses, c'est-à-dire qu'il tue les femmes plus que le diabète et les crises cardiaques. Donc, au moins une fois tous les deux ans, une femme devrait pouvoir faire un frottis si elle ne se trouve pas dans une zone à haut risque. L'autre problème que nous rencontrons dans la plupart des pays à faible et moyen revenu, c'est que la première personne qu'ils voient à l'hôpital est un agent clinique. Et si vous allez dans un hôpital public, la salle de consultation n'a même pas de table d'examen. Il n'y a qu'une table et une chaise. L'agent clinique n'a donc pas l'intention d'examiner. Et comme je l'ai dit, la majorité des patientes qui viennent pour un cancer du col de l'utérus au stade précoce ne présentent pas de symptômes. La personne qui examine la patiente doit donc avoir un indice de suspicion élevé. Il faut en quelque sorte le rechercher avant que la patiente ne vous fasse part des symptômes. Troisièmement, le traitement est coûteux. Et c'est très intrusif parce qu'on demande aux patients de s'exposer. C'est un peu très intrusif. Il existe un examen d'autotest, l'ADN du HPV, mais il coûte plus de 8 000. Il est certain que très peu de personnes peuvent se permettre de payer plus de 8 000 tous les deux ans. En ce qui concerne les symptômes, la plupart d'entre eux sont des saignements post-intimité. Aujourd'hui, la plupart des conjoints et des partenaires évitent ce patient parce qu'à chaque fois qu'ils ont des rapports intimes, il y a des saignements. Parfois, ces saignements s'accompagnent d'un écoulement. À un stade avancé, l'odeur est très nauséabonde. En fait, un professionnel saura qu'il y a une patiente atteinte d'un cancer du col de l'utérus lorsqu'il entrera dans le service à cause de l'odeur. Mais lorsqu'il perçoit cette odeur, c'est que le cancer est déjà à un stade avancé. La façon dont nous pourrions essayer d'aider est donc d'éduquer au dépistage précoce. L'un des plus gros problèmes que je rencontre est le dépistage préconisé par l'OMS, la visualisation et l'acide acétique par des personnes formées. La formation à la visualisation et à l'acide acétique, qui est un très bon moyen et un moyen très efficace d'examiner les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus dans le service, serait peu coûteuse et gratuite. Ils doivent disposer d'un équipement appelé colposcopie, que les hôpitaux n'ont pas. L'infirmière, le médecin ou l'agent clinique qui effectue l'examen doit être formé pendant au moins 6 mois et non 2 semaines. Ils ne peuvent pas être en mesure de comprendre ce qui ne va pas chez la patiente en suivant une formation de 2 semaines. Je pense donc que nous devons adapter les politiques pour pouvoir aider nos concitoyens. C'est ce que j'ajouterai à ce qu'a dit Caleb. Mais nous devons avoir, je l'ai dit et répété, un dépistage qui nous aidera beaucoup. Des pays comme l'Australie ont réussi à presque éliminer le cancer du col de l'utérus. Deuxièmement, nous devons plaider en faveur des vaccins et aller au-delà des croyances religieuses contre les anti-vaccins. Même si tout le monde a un droit, nous devons éduquer les gens pour qu'ils comprennent les avantages des vaccins. À vous, Valérie.
Thank you very much, Dr. And I definitely agree with you, especially on focusing majorly on the importance.
Merci beaucoup, docteur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout en ce qui concerne l'importance des vaccins. Comme vous le savez, Même si nous disons aux gens que les vaccins sont gratuits pour les enfants pendant 10 à 14 ans, les gens n'achètent pas les choses parce qu'elles sont gratuites. Il faut qu'il ait une très bonne raison de le faire. Je pense donc que même en tant que défenseur et en tant qu'interlocuteur au sein de la communauté, nous avons un rôle énorme à jouer. Et les professionnels de santé, si cela pouvait être fait, même lorsque les gens viennent pour des examens normaux, pour traiter d'autres maladies, ou lorsque les femmes viennent pour des consultations prénatales, ou pour toute autre visite à l'hôpital, il est également important de relayer cette information à chaque personne. Merci beaucoup. Caleb, vous vouliez parler de solutions. Allez-y.
All right. Thank you very much, Valerie. And I also want to thank Dr. David for bringing in some of these other aspects that I didn't even take into consideration. I mean,
Merci beaucoup, Valérie. Je tiens également à remercier le docteur David d'avoir abordé d'autres aspects que je n'avais même pas pris en considération. Je ne suis pas médecin, je n'ai jamais été dans le cabinet d'un clinicien lorsqu'une femme vient pour un dépistage ou un traitement du cancer du col de l'utérus. Ce sont donc des choses que les professionnels de la santé voient et traitent directement et auxquelles certains d'entre nous n'ont pas le privilège de participer. Je vous remercie donc d'avoir apporté ce point de vue d'expert, tandis que je me penche sur le point de vue de la société. Bien sûr, aujourd'hui, nous examinons comment changer nos perspectives, les perceptions et les perspectives pour vaincre la stigmatisation, et vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une question d'intérêt pour la société. Merci beaucoup, Dr. David. Je pense que vous avez abordé certaines des questions que j'allais soulever. Que peut-on faire? Comment peut-on lutter contre la stigmatisation des femmes avec le cancer du col de l'utérus? Bien sûr, une approche holistique des soins du cancer est nécessaire. Le docteur David a parlé des gouvernements et des institutions de soins de santé qui doivent fournir des solutions plus adéquates et les rendre plus abordables. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, le gouvernement et les institutions de soins de santé devraient se demander pourquoi les femmes hésitent à se faire soigner et comment ils peuvent soutenir ces femmes tout au long du traitement et au-delà. Et bien sûr, vous vous souvenez que nous avons parlé du cancer du col de l'utérus comme étant très intrusif et envahissant ce que j'appellerais, entre guillemets, la vie privée d'une femme. Il ne suffit donc pas de mettre en place des centres de dépistage du cancer du col de l'utérus si les femmes ne s'y présentent pas par crainte d'être déshonorées par la communauté. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne suffit pas de fournir ces installations. Il ne suffit pas de les mettre à disposition. Nous devons veiller à ce que les femmes se présentent et bénéficient de ces services sans la stigmatisation que la communauté a tendance à entreprendre ou à manifester à l'égard de ces femmes. Le docteur David a parlé des kits d'autodépistage qui pourraient changer la donne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment important. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de plaider sérieusement auprès des gouvernements africains, auprès des bailleurs de fonds, des grandes organisations qui s'intéressent à ces questions. Voici sans doute un domaine dans lequel vous devriez investir. Investir, tout d'abord, dans la mise à disposition de ces kits. Investissez dans la création d'un espace sécurisé où ils peuvent être utilisés. Même à la maison, il y a certaines choses à prendre en considération. Et nous pouvons investir pour nous assurer que ces éléments sont mis à la disposition des femmes. Nous devrions également investir dans la formation à l'utilisation de ces gadgets, ces kits d'autotest. Quand je parle de formation, qu'est-ce que je veux dire? Nous pouvons organiser des campagnes massives pour que chaque femme sache comment utiliser ces kits. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde entier, je sais qu'il y a eu une campagne sérieuse. Je crois que cela s'est produit au Kenya et dans d'autres pays. Je parle du programme de lutte contre le paludisme. On a beaucoup parlé du paludisme dans toute l'Afrique. Beaucoup de gens ont compris que pour éviter la malaria, il fallait débroussailler. Il faut fermer les fenêtres à certaines heures de la soirée. Il faut éliminer les eaux stagnantes. Vous devez dormir sous une moustiquaire imprégnée. Ce sont des campagnes qui ont été répétées sans cesse. Et nous constatons qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le paludisme. Nous devrions faire ce genre de choses, surtout si nous constatons que des kits d'autodépistage permettraient à un plus grand nombre de femmes de se tester elles-mêmes. Car, n'oublions pas que le premier problème, et c'est la première chose que j'ai mentionnée aujourd'hui, c'est qu'aucune femme ne se sent à l'aise pour se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Donc, si nous pouvons faciliter la réalisation de ces tests, si nous pouvons les rendre plus privés, si nous pouvons investir dans la technologie, dans l'accessibilité financière, dans la disponibilité, dans la facilité d'utilisation de ces produits, je pense que cela ferait une énorme différence, parce que nous réduirions le cancer du col de l'utérus en premier lieu. Nous réduirions de manière significative la prévalence du cancer du col de l'utérus. Et nous ne parlerons même pas de la stigmatisation. Je pense donc que c'est très important. Je parlerai ensuite de la sensibilisation. La sensibilisation est essentielle, et le docteur David en a parlé. Nous devons sensibiliser nos populations. Les gens sont stigmatisés parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur le cancer du col de l'utérus. Si nous pouvons faire connaître à la population la vérité et la réalité sur le cancer du col de l'utérus, nous aurons fait beaucoup de travail, et nous aurons progressé dans la réduction de la stigmatisation. Il y a quelques minutes, je vous ai présenté une série de mythes sur le cancer du col de l'utérus. Nous devons nous efforcer de faire reculer les idées fausses et le manque de connaissances. Nous devons sensibiliser la population, par exemple, au fait que le diagnostic du HPV, le virus qui cause le cancer du col de l'utérus, ne signifie pas nécessairement qu'une femme se livre à des promiscuités ou à des comportements sexuels à risque. C'est très, très important. Nous devons nous assurer que nos communautés comprennent parfaitement la maladie afin qu'elles ne réagissent pas par le jugement ou l'évitement à l'égard des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. Là encore, je parle d'investir dans des campagnes qui sensibilisent efficacement la population. Je pense que c'est essentiel. Il se peut que nous connaissions ces faits et que nous en parlions entre nous. Mais nous devons transmettre ces informations aux différents coins du continent. Nous devons utiliser les radios communautaires. Nous devons utiliser les moyens, les médias auxquels les gens sont habitués. Je sais qu'au Kenya, les jeunes utilisent beaucoup les médias sociaux au Kenya et dans l'ensemble de l'Afrique. Nous devrions exploiter cela et dire aux gens la vérité sur cette maladie afin qu'ils n'aient pas d'idées fausses. Nous devrions nous rendre dans les communautés rurales où l'accès à l'Internet et aux médias sociaux n'est pas très courant. Nous pouvons utiliser les stations de radio et de télévision communautaires. Nous pouvons utiliser des messagers communautaires. Je ne sais pas si c'est courant, mais je sais que dans la plupart des pays africains, il y a des messagers communautaires qui se déplacent et qui sont très respectés parce qu'ils sont envoyés par les chefs traditionnels. Nous pouvons utiliser tous ces moyens et faire passer le message de manière significative. Notre sensibilisation doit également prendre en compte les normes culturelles et de genre. J'ai parlé, il y a quelques minutes, du fait que les femmes sont porteuses d'enfants. Il peut arriver qu'une femme ne puisse pas procréer parce qu'un cancer du col de l'utérus a été diagnostiqué. Au lieu d'ignorer cette femme, nous devons sensibiliser notre population pour qu'elle soit suffisamment informée pour savoir qu'elle est censée soutenir ces femmes et non les ignorer. Ce que je veux vraiment faire ici, c'est mettre l'accent sur ce que devraient être nos messages de sensibilisation.
Making communities understand that cervical cancer is not contracted through everyday interactions with patients. No, people need to know that.
Je pense que nos efforts de sensibilisation doivent également viser à faire comprendre aux communautés que le cancer du col de l'utérus ne se contracte pas dans le cadre des interactions quotidiennes avec les patientes. Les gens doivent savoir que lorsqu'ils sont entourés de personnes atteintes d'un cancer du col de l'utérus, il peut être désagréable d'être proche de ces personnes, mais c'est la raison pour laquelle elles ont le plus besoin de leur soutien, et ils doivent savoir que le fait d'être proche d'elles ne leur transmettra pas la maladie. Encore une fois, je ne saurais trop insister sur la nécessité de faire comprendre à nos communautés que les femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus ne sont pas nécessairement des femmes adultères. C'est très, très important. Nos prestataires de soins de santé doivent être mieux formés à la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. C'est également très important. C'est un autre domaine dans lequel nous devons investir et nous assurer que nous avons des prestataires de soins de santé compétents. Je conclurai en disant qu'il existe une meilleure option pour faire face à cette situation. Au lieu d'essayer d'éviter la stigmatisation existante, nous pouvons simplement la briser. Nous pouvons mettre un terme à la stigmatisation si l'éducation, l'information et la sensibilisation sont adéquates. Sensibilisation du public, sensibilisation de nos professionnels de santé et discussions ouvertes et franches sur la santé sexuelle et génésique, discussions ouvertes sur le cancer du col de l'utérus. Visons à limiter les tabous qui entourent le cancer par des campagnes de sensibilisation. Et surtout, faisons comprendre aux gens que la maladie peut être évitée et traitée. Nous devons tout mettre en œuvre pour investir dans des kits de dépistage moins invasifs, plus abordables et plus conviviaux. Il s'agit là d'éléments clés. En agissant de la sorte, nous limiterons le cancer du col de l'utérus en premier lieu, et nous n'aurons même plus à parler de discrimination. Surtout, le cancer du col de l'utérus n'est pas une condamnation à mort. Il peut être traité. Ce n'est pas une maladie infectieuse, et ce n'est pas une condamnation à mort. Si vous le diagnostiquez tôt, vous pouvez le traiter. Mais pour le diagnostiquer à temps, nous devons nous soumettre au dépistage et trouver un moyen de ne pas avoir honte. Nous devons trouver un moyen de nous sentir plus à l'aise pour effectuer ces dépistages. Je pense donc qu'il s'agit là de quelques-unes des choses auxquelles nous devons sérieusement réfléchir. Ce faisant, nous ferons un grand pas en avant en tant que société pour aider à réduire la stigmatisation, les taux élevés de stigmatisation que nous connaissons actuellement en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus.
Merci beaucoup, Caleb. Je vois que Sabi est en ligne. Voulez-vous ajouter quelque chose ou avez-vous une question? Allez-y.
I would like to concur with Caleb and.
Je suis d'accord avec Caleb. Sensibilisons les gens au dépistage.
Screening and I always say everyone has HPV.
Je dis toujours que tout le monde a le papillomavirus. Ce n'est pas une indication de promiscuité. Il y a 10% des gens qui l'attrapent par des moyens non sexuels. Sensibilisons donc les gens au dépistage et nous ferons du bien à tout le monde.
Merci beaucoup, docteur. s'habitue à la parole.
This is to Dr. David. So you want to say.
Merci beaucoup. J'ai une question à poser. Elle s'adresse au Dr. David. Vous voulez donc dire qu'en dehors du contact sexuel, il y a d'autres façons de contracter la maladie? De quels autres moyens s'agit-il?
Effectivement. La recherche a montré que l'on peut contracter la maladie dans les salles de sport. On peut l'attraper dans les draps d'un hôtel. On peut l'attraper dans les piscines. Le pourcentage est très faible dans les piscines, en particulier celles qui ne sont pas chlorées. Mais on peut l'attraper dans les sièges de vélo de la salle de sport, dans les chambres d'hôtel, en particulier celles qui ne sont pas bien désinfectées.
Je suis heureux que nous ayons cette conversation. Pour ma part, je pense que les conversations en termes de sensibilisation devraient commencer au niveau du dépistage. Vous voyez comment nous avons normalement les séances de conseil avant et après le dépistage du sida. Je pense que les médecins et les autres professionnels qui conseillent les gens peuvent adapter cela au cancer du col de l'utérus. En effet, une fois que l'on est en mesure d'expliquer à la patiente comment comprendre la maladie, comment s'y prendre lorsqu'elle découvre qu'elle en est atteinte et comment vivre en sachant qu'elle en est atteinte, je pense qu'il est important d'organiser une séance de conseil. Même au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, nous pourrions aussi parler à leurs familles, à leurs proches qui ont été touchés par cette maladie. Car je crois savoir que le cancer du col de l'utérus peut même affecter l'engagement sexuel avec le conjoint. Tout commence donc par des conversations. Et je pense qu'aujourd'hui est un moment d'apprentissage et de réapprentissage de certaines choses sur le cancer et plus particulièrement sur le cancer du col de l'utérus. Personnellement, je pense que je n'ai jamais été intéressée par les détails du cancer du col de l'utérus parce que les symptômes ne m'ont jamais été familiers, pour ainsi dire. Je suis donc heureuse que ce changement commence avec moi, car je commence à m'engager dans des conversations qui me permettent d'en savoir plus sur le cancer. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avancerons, j'aurai l'occasion de faire d'autres commentaires.
Thank you, Sabi. I think I've also become a little bit more careful, especially when Dr. Terry mentioned.
Merci beaucoup, Sabi. Je pense que je suis également devenue un peu plus prudente, en particulier lorsque le Dr. David a mentionné les gymnases, les lits d'hôtel, les piscines. La sensibilisation doit donc être globale et ne pas concerner uniquement le cancer du col de l'utérus, mais aussi la santé du col de l'utérus. Le col de l'utérus est une zone très sensible. L'hygiène sera très, très importante. Je ne sais pas si vous aimeriez parler, Dr. David, de la partie conseil, de la partie thérapie avant et après, comme c'est le cas pour le VIH.
C'est quelque chose qui peut être adopté. Je préfère généralement que le conseil soit dispensé en période prénatale, car la majorité des femmes au Kenya se retrouvent en consultation prénatale. Nous pouvons donc essayer cette mesure, car la plupart des diagnostics de VIH sont posés pendant la période prénatale. Lorsque nous conseillons les femmes en consultation prénatale, nous conseillons également les femmes sur le cancer du col de l'utérus. C'est en fait dans le livre des consultations prénatales. C'est juste que la plupart des infirmières s'intéressent davantage au VIH qu'au cancer du col de l'utérus, parce que le VIH affecte l'enfant. Mais nous pouvons former nos infirmières et nos sages-femmes à adopter et à conseiller le dépistage du cancer du col de l'utérus pour qu'ils soient aussi sensibilisés que le VIH. C'est donc un très bon point. À toi, Valérie.
Très bien. Merci, docteur. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler des recherches en cours sur l'utilisation d'échantillons d'urine pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et je ne suis pas sûr de la précision de ce test.
Ce n'est pas possible. Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas possible avec des échantillons d'urine. Ce sont des systèmes complètement différents. Ce n'est pas possible.
Merci d'avoir clarifié ce point.
You know, maybe some of us are so scared of foreign objects. So I'm looking forward to days when we will have progress as a country and also other continents and such.
Par ailleurs, j'attends avec impatience le jour où certains d'entre nous qui ont tellement peur des objets étrangers dans leur col de l'utérus feront des progrès et où nous dépisterons le cancer du col de l'utérus à l'aide d'échantillons d'urine ou de sang. Juste pour répondre aux besoins des personnes qui, comme moi, n'aiment pas les objets étrangers dans leur corps. Parce que je crois que c'est quelque chose qui a l'air d'être fait en métal. N'est-ce pas, docteur David?
The pap smear is very intrusive because you have to use a speculum.
Le frottis est très intrusif parce qu'il faut utiliser un spéculum que l'on introduit généralement dans le vagin pour voir le col de l'utérus. On utilise ensuite une brosse pour brosser le col de l'utérus. Cette brosse contient des cellules. Les cellules sont alors placées sur une lame. En général, le pathologiste lit les lames. Et comme les pathologistes sont peu nombreux au Kenya, les résultats sont généralement obtenus au bout de 2 semaines. Le frottis est donc très intrusif. Mais comme je l'ai dit, pour un résultat plus coûteux, il y a l'ADN du HPV qui est un kit d'autodépistage. L'ADN du VPH est beaucoup plus facile à réaliser. Mais un frottis coûte plus de 2000 et l'ADN du HPV plus de 8000. Vous pouvez voir la différence. Et la sensibilité, la capacité d'un frottis à dire que vous avez un problème, est d'environ 50%. Ce n'est pas très bon. C'est donc un autre problème du frottis. L'ADN du HPV est donc supérieur, mais il est plus cher. J'espère avoir répondu à votre question.
Oui, en effet. Je voulais savoir s'il existait d'autres méthodes que l'insertion de substances étrangères.
La réponse est simple. Non, parce qu'il faut atteindre le col de l'utérus. Nous n'avons toujours pas d'autres méthodes. Et croyez-moi, de nombreuses recherches sont en cours à ce sujet. Mais nous n'avons toujours pas d'autres méthodes. La seule méthode existante est le frottis et l'ADN du HPV, qui impliquent tous deux l'insertion d'éléments. Je sais que c'est très intrusif et c'est regrettable. Valérie?
Oh, yeah. So, Caleb had also mentioned one of the contributors to stigma.
Oui, docteur. Caleb a également mentionné que l'un des facteurs contribuant à la stigmatisation est l'inaccessibilité au traitement. Je l'ai constaté avec plusieurs patients, dont certains nous sont adressés et d'autres se contentent d'un dépistage. Après le dépistage, que se passe-t-il? Ils n'ont aucun moyen de commencer un traitement. Parfois, c'est parce que lorsque leurs résultats sont positifs, ils ne savent pas comment procéder, ou parfois, les hôpitaux sont pleins et il faut beaucoup de temps pour obtenir l'approbation, même si les patients sont prêts à recevoir le traitement. Il arrive aussi que les établissements nous déçoivent. Cela peut également conduire à la stigmatisation et à la peur d'une mort éventuelle, car on se demande sans cesse ce qui va se passer alors que la personne ne peut même pas recevoir de traitement.
tell more people to go for screening or more people to go for screening as well. So I'm just wondering how that huge gap can be filled.
Je me demande comment combler cette énorme lacune. La possibilité pour les femmes de commencer un traitement une fois qu'elles ont été dépistées et que le test est positif.
Most of the time when you test positive for HPV,
la plupart du temps, lorsque le test de dépistage du VPH est positif, l'organisme combat le virus, sauf si l'on fait partie des rares personnes qui n'y parviennent pas. Mais en général, lorsque vous attrapez le virus et que vous êtes suivi de près, vous devriez vous en sortir. Je dis toujours aux personnes qui découvrent qu'elles sont séropositives pour le papillomavirus ou qui constatent une anomalie après un frottis, de consulter un gynécologue-oncologue. Ne cherchez pas de gynécologue-obstétricien. Je sais que nous sommes peu nombreux, mais cherchez un gynécologue-oncologue. Il pourra mieux vous conseiller et vous suivre plus loin. C'est ce qu'il y a de mieux, car nous pourrons vous donner le traitement approprié. Même pour les cancers précoces, ils sont disponibles. Il est vrai que nous sommes peu nombreux, mais nous sommes là. Nous ne nous occupons que des femmes atteintes de cancers gynécologiques, c'est-à-dire les cancers de l'ovaire, du col de l'utérus, de l'utérus, du vagin, de la vulve comme les cancers féminins. Donc, même si nous sommes peu nombreux, nous ne sommes pas débordés. Il suffit donc de nous chercher. Nous serons en mesure de vous guider en fonction de ce que vous avez, de ce qui a été diagnostiqué et de votre niveau. J'espère avoir répondu à cette question. Valérie, je te redonne la parole.
Oh oui, merci. Sally, allez-y et apportez votre contribution. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse que nous ayons aujourd'hui des messieurs comme orateurs pour le cancer du col de l'utérus. Ce n'est généralement pas le cas. Si vous parlez du cancer du col de l'utérus, les gens s'attendent peut-être à ce que ce soit les femmes qui parlent, mais je suis très heureuse que nos hommes s'impliquent également et j'espère que de plus en plus d'hommes parleront du cancer du col de l'utérus. Car ce n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est notre affaire à tous. En ce qui me concerne, je voudrais simplement confirmer ce que les deux messieurs ont dit. Je suis une survivante du cancer du col de l'utérus et je suis d'accord avec le médecin lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de symptômes au début. Je vis avec le VIH et j'avais un système immunitaire affaibli. Lorsque j'ai fait mon frottis, on m'a trouvé des cellules anormales, comme vous dites. Les examens ont révélé que j'avais été infectée par le papillomavirus pendant un certain temps. D'autres tests ont révélé que j'étais atteinte d'un cancer du col de l'utérus de stade 2. C'était en 2007 et j'ai survécu. Je souhaite donc simplement encourager nos auditeurs ce soir, et Sabi, n'ayez pas peur. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous effrayer, car si vous attendez que la maladie soit là, les conséquences seront graves. Je tiens donc à encourager les gens en leur disant que le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers qui peut être éliminé de la surface de la Terre. Je sais que la gêne et toutes les choses dont ces messieurs ont parlé sont un peu embarrassantes, mais si vous avez peur d'ouvrir les jambes pendant l'accouchement, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Donc, si vous voulez éliminer le cancer du col de l'utérus, malheureusement, mesdames, nous devons ouvrir nos jambes. Je me réjouis une fois de plus que les hommes s'impliquent et qu'ils soient de plus en plus nombreux à parler du cancer du col de l'utérus. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Thank you, Sally, and thank you for always sharing and sharing your story and encouraging more people to also share.
Merci Sally, et merci de toujours partager votre histoire et d'encourager d'autres personnes à faire de même. Vous êtes également très active dans la sensibilisation et Sally va même jusqu'à accompagner des personnes pour le dépistage. Elle vous envoie un message pour le dépistage et vous accompagne, et c'est toujours agréable.
Je pense donc que nous avons besoin de telles initiatives. Je vois que notre temps est largement dépassé et je ne vois plus de main pour poser des questions à Caleb et au docteur David. Donc, si nous n'avons pas d'autres contributions, nous avons déjà obtenu de très bonnes informations et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'agir. Et vous savez que nous pouvons réellement éliminer le cancer du col de l'utérus. J'aimerais également revenir sur ce qu'a dit Caleb à propos des campagnes de lutte contre le paludisme. Il a vraiment parlé du paludisme et des interventions. Si vous interrogez quelqu'un sur les interventions en matière de prévention et de traitement du paludisme, de gestion des cas et autres, la plupart des gens vous répondront très rapidement. Je pense donc que si nous normalisons ces conversations sur le cancer du col de l'utérus, elles atteindront le même niveau que le VIH et le paludisme. Et c'est ce que nous voulons vraiment. Nous avons déjà commencé à sortir, à parler aux gens du cancer du col de l'utérus, du vaccin, du dépistage, et c'est tout ce que nous devons continuer à faire. Je vais maintenant donner la parole à Caleb pour qu'il présente ses conclusions finales et qu'il parle de l'avenir de la sensibilisation, de l'avenir de ses campagnes et qu'il mentionne également certains des messages, la façon dont nous pouvons collaborer et élaborer de très bons messages pour atteindre les gens. C'est probablement de cela dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Bienvenue, Caleb.
Très bien. Merci, Valérie. Tout d'abord, je me joins aux autres orateurs pour dire que je pense que le cancer du col de l'utérus peut être éliminé. Mais cela nécessiterait beaucoup d'investissements et devrait être une priorité pour nos gouvernements et nos donateurs. Et je dis que ce devrait être une priorité non seulement parce que nous devons investir dans ce domaine, mais aussi parce que nous pouvons réellement l'éliminer. Nous avons parlé des différentes mesures qui peuvent être prises. Je pense que si nous investissons pour rendre le dépistage du cancer du col de l'utérus plus convivial et moins intrusif, cela pourrait vraiment aider à faire dépister beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de femmes à travers le continent. Une fois que nous pourrons faire dépister un plus grand nombre de femmes, cela signifie que nous pourrons identifier le cancer du col de l'utérus à un stade précoce dans la plupart des cas, et le résultat automatique sera que nous aurons moins de cas où la maladie atteindra un stade avancé. En effet, ces personnes auront été traitées au stade initial, vu qu'elles auront été identifiées tôt. Multiplions donc les plaidoyers envers nos gouvernements et les bailleurs de fonds, de sorte qu'ils peuvent en faire une priorité. Si nous arrivons à le faire, nous progresserons dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Faisons également en sorte que les traitements soient abordables. Nous savons tous qu'il existe une méthode de dépistage, l'ADN du papillomavirus, dont a parlé le docteur David. Elle est disponible, mais elle n'est pas abordable. Investir dans cette technologie et la rendre plus accessible et plus abordable sur l'ensemble du continent serait donc une bonne façon de commencer.
for those who are already who already have to deal with the disease right now or who have to treat it.
En ce qui concerne le traitement, pour ceux qui sont déjà confrontés à la maladie ou qui doivent la traiter, assurons le rapprochement du traitement vers la population.
Multiply, intensify this effort. I know that there are instances of mobile clinics.
Nous faisons des efforts, mais nous devons les multiplier et les intensifier. Je sais qu'il existe des cliniques mobiles, qu'il y a même des interventions par SMS pour rappeler aux gens de faire leurs tests ou d'aller se faire soigner, etc.
We have these things happening, but on a very limited scale. If we can.
Ces choses existent, mais à une échelle très limitée. Nous pouvons faire en sorte que ces services soient offerts dans tous les coins du continent.
Look at what happened. I'll give the malaria case again. Because partners were serious with malaria, they ensured that.
Regardez ce qui s'est passé. Je reprendrai l'exemple de la malaria parce que les partenaires ont pris le problème de la malaria au sérieux. Ils ont veillé à ce que les gens se procurent des moustiquaires. Je connais des endroits où il y avait tellement de moustiquaires que les gens ne savaient pas quoi en faire. Certains ont même commencé à les attacher à leurs filets de pêche. De nombreuses ressources ont donc été consacrées à la lutte contre le paludisme, puis les outils de prévention nécessaires ont été fournis. On peut faire la même chose avec le cancer du col de l'utérus. Il est vrai qu'il est coûteux, mais ce qui est bien, c'est qu'il ne concerne que les femmes. De plus, que les femmes d'un certain âge. Alors pourquoi ne pas investir dans ces femmes, cibler la tranche d'âge et l'éliminer une fois pour toutes?
Governments hopefully can hear me, international donors, partners, developmental partners.
Je lance donc cet appel pour que les gouvernements et les donateurs internationaux, les partenaires du développement, entendent et prennent sur eux de faire de l'éradication du cancer du col de l'utérus une priorité. C'est faisable, mais ce n'est pas une priorité, c'est le problème que nous avons. S'ils en font une priorité, nous pourrons alors nous attaquer sérieusement à ce fléau qu'est le cancer du col de l'utérus et l'éradiquer. En ce qui concerne les messages, nous les avons déjà mentionnés, nous devons démystifier le mythe dont nous avons parlé aujourd'hui à propos du cancer du col de l'utérus. Les gens doivent connaître la vérité et ne pas nécessairement associer le cancer du col de l'utérus à des choses qui ne sont pas exactement ce qu'ils pensent qu'elles sont. En d'autres termes, je nous demande simplement de veiller à ce que les gens soient sensibilisés à ce qu'est exactement le cancer du col de l'utérus, de sorte qu'avant de dire quoi que ce soit, ils puissent être informés de leurs actions, de leur comportement envers les patientes atteintes du cancer du col de l'utérus, ce qui pourrait faire du monde un endroit bien meilleur. Merci beaucoup.
Thank you so much, Caleb, for those powerful points you've already given us.
Merci beaucoup, Caleb, pour les points forts que vous nous avez présentés. Je ne sais pas si le docteur David ou Sabi souhaite ajouter quelque chose avant que nous ne terminions.
I would like to tell the people, if you guys have any issue on gynecology, oncology, you can contact me or contact.
Je voudrais dire aux gens que si vous avez des questions sur la gynécologie ou l'oncologie, vous pouvez me contacter. Et n'ayons pas peur de faire des dépistages. N'ayons pas peur. Vous pouvez prêcher le dépistage. C'est ce que je voudrais dire à tout le monde. Bonne nuit à tous. Caleb, c'était une très bonne présentation.
What to you?
Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Daktari. We'll keep preaching. You know, even if you go to churches.
Merci, docteur David. Nous allons continuer à prêcher. Si vous allez dans les églises, elles prêchent une chose encore et encore jusqu'à ce que les gens la comprennent mieux. Nous ne relâcherons pas nos efforts. Nous continuerons à prêcher, à faire du dépistage, à prêcher la vaccination et ensemble, nous éliminerons le cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup. Merci à Caleb. Merci au docteur David. Merci à Sally. Merci Sabi.
Merci Valérie. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier Bing Africa de m'avoir invité à participer à cette initiative et à prendre la parole aujourd'hui. Je remercie également le docteur David pour les mots aimables qu'il a eus à l'égard de ma présentation d'aujourd'hui. Merci à vous tous, Sally, Sabi, pour vos contributions. Je remercie également les nombreux auditeurs que nous avons eus aujourd'hui et les nombreux autres qui écouteront ce programme par la suite, car je sais qu'il restera bien sûr sur cet espace. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Caleb. Yes, so thank you everyone for joining this space tonight. And I'd just like to say that we go ahead and implement all that we've had. Talk to someone today, talk to someone each and every time about cervical cancer and let's normalize this conversation.
Oui, merci à tous d'avoir rejoint cet espace ce soir et je voudrais juste dire que nous allons aller de l'avant et mettre en œuvre tout ce que nous avons appris. Parler à quelqu'un aujourd'hui, parler à quelqu'un chaque fois du cancer du col de l'utérus et normalisons cette conversation. Continuons à prêcher la prévention parce qu'elle vaut toujours mieux que la guérison. Sur ce, j'aimerais également remercier Achien pour son accueil, pour avoir rendu possible cet événement tous les mercredis et nous apprécions vraiment toutes les connaissances que nous recevons ici gratuitement. Merci beaucoup et bienvenue à nouveau, Achien.
Thank you Valérie. And thank you, everyone. Thank you, Dr. Thank you, Caleb. Thank you.
Merci, Valérie, et merci à tous. Merci au Dr. David. Merci à Caleb. Merci à Sally, Sabi et Valérie d'avoir si bien modéré cette discussion.
One of the main things that we are trying to achieve is normalization of discussion or conversations about cervical cancer.
L'une des principales raisons pour lesquelles nous organisons ces espaces est d'essayer de normaliser les discussions ou les conversations sur le cancer du col de l'utérus, ce qui nous aidera à vaincre la stigmatisation que nous avons identifiée comme un obstacle majeur pour les femmes qui recherchent des services de dépistage, des services de traitement et également des femmes qui recherchent un soutien.
Every Wednesday we'll keep hosting these spaces and if there is any topic that you'd like us to discuss feel free.
Tous les mercredis, nous continuerons donc à organiser ces espaces. Et si vous souhaitez que nous discutions d'un sujet quelconque, n'hésitez pas à partager le message. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes plateformes de médias sociaux et nous nous ferons un plaisir de faire venir les intervenants que vous souhaitez que nous accueillions dans l'espace. Et ensemble, nous pensons que nous pouvons éliminer le cancer du col de l'utérus. En effet, il apparaît clairement que le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers que l'on peut prévenir et traiter à 100%. C'est pourquoi le docteur David, Caleb et tous les autres orateurs ne cessent de parler de dépistage, car s'il est détecté à un stade précoce, il est facilement traitable. Et nous pouvons tous rejoindre l'espace et prendre la parole pour écouter les survivants s'exprimer, comme l'a fait Sally. Je vous souhaite la bienvenue dans l'espace de mercredi prochain, mais n'hésitez pas à poursuivre la conversation sur nos plateformes en ligne. Si vous avez besoin de contacter le Dr David, n'hésitez pas à contacter Valérie, et vous pouvez également contacter Bing Africa. Le Dr David est à votre disposition. Vous pouvez toujours le contacter. Je vous souhaite une bonne nuit jusqu'à mercredi prochain. Si vous n'avez pas encore suivi Bing Africa, n'hésitez pas à le faire et à poursuivre la conversation. Bonne nuit à tous, que Dieu vous bénisse.